Je m'appelle Sarah Normandin et je suis nutritionniste depuis plusieurs années. Ma passion, c'est d'apprendre à retrouver le plaisir de manger, de te montrer que ça peut être simple, mais surtout de t'aider à faire la paix avec ton corps et avec les aliments. Dans le podcast « Le maudit poids », prépare-toi à être surpris, à peut-être même être choqué par ce que tu vas entendre, mais fais-moi confiance. Le chemin vers la libération en vaut vraiment la peine. Prendre note que dans ce podcast, j'agis à titre d'animatrice. À noter donc que je ne peux endosser les propos tenus par mes invités puisqu'ils représentent leur opinion et expérience personnelle. En aucun cas, les propos tenus dans le cadre de cet épisode ne représentent des conseils nutritionnels personnalisés. Si jamais tu as besoin d'accompagnement, je t'invite à consulter le répertoire des nutritionnistes diététistes sur le site de l'Ordre professionnel des diététistes nutritionnistes du Québec, soit odnq.org. Merci et bonne écoute! T'écoutes le podcast et tu te dis « Oh wow, ça, ça me parle, mais ich, j'y arriverai pas toute seule, j'ai vraiment besoin d'avoir un accompagnement personnalisé. » Bien, ça tombe bien parce que j'offre des consultations individuelles partout au Québec. Je t'invite sur mon Linktree sur Instagram ou mon Facebook ou encore sur mon site internet pour en savoir plus.
Salut tout le monde! Bienvenue sur un nouvel épisode du podcast « Le maudit poids ». Aujourd'hui, je me trouve avec Elina. Bonjour Elina!
Bonjour!
Comment ça va?
Ben, ça va bien, en semi-vacances.
Oui, c'est ça. Elina est vraiment très généreuse. Elle nous donne du temps pendant ses vacances. Donc, merci énormément pour ça. C'est super apprécié.
Ça me fait très plaisir.
Elina, avant de rentrer dans le vif du sujet, ton parcours plus personnel, j'aimerais quand même t'entendre un petit peu sur qui tu es, puis surtout en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que tu fais professionnellement, parce que c'est comme ça un petit peu que je t'ai déniché, on va dire ça comme ça, puis ça m'intéresse aussi de voir un petit peu comment ton parcours après ça personnel peut avoir influencé un petit peu ta vie professionnelle.
Ben, je suis française d'origine, donc... Voilà, les vacances en France, c'est pour ça, je suis venue voir mes parents, mais c'est ça, je suis française d'origine, en 2009, j'ai déménagé au Québec pour le travail de quelqu'un. J'étais en droit, je faisais du droit et j'ai arrêté le droit pour faire de la création littéraire au Québec, à l'Université de Montréal. Wow. Et pendant mes études, j'ai fait un stage en maison d'édition et c'était un gros, gros coup de cœur. Donc, j'ai su à ce moment-là que c'est là-dedans que j'irais, en fait. Mais je ne trouvais pas vraiment de maison d'édition au Québec qui allumait mes valeurs, disons. C'était un peu compliqué. Donc, quand j'ai eu mon fils en 2015, j'ai commencé à réfléchir à un projet pour ouvrir ma propre maison d'édition.
Waouh!
Et en 2016, je me suis inscrite au registraire des entreprises. Donc, j'ai ouvert une maison d'édition féministe et militante.
Très cool.
Qui publie à compte d'éditeur donc des livres, surtout des femmes et des personnes marginalisées. C'est vraiment le créneau que j'ai choisi. Et à côté, j'offre des formations en écriture créative. Donc, mon axe de formation, c'est surtout les neurosciences, le human design et maintenant l'intelligence artificielle. Je commence à m'y intéresser un peu et voir comment ça peut aider les auteurs et les autrices sans se faire manger par l'intelligence artificielle qui fait peur à tout le monde en ce moment.
Oui, hein, c'est comme le sujet de l'heure, c'est vrai.
Oui, mais en fait, ça peut vraiment être une grande aide. Donc, je pense que l'intégrer, c'est ça qui va aider en fait les créateurs plutôt que d'être en concurrence.
Ah ouais, c'est bon.
C'est ça à peu près mon parcours entrepreneurial. Donc c'est ça, je suis entrepreneur depuis 2011. J'étais surtout en service linguistique et marketing. Puis j'ai ouvert mon entreprise CESA en 2016. Et j'ai abandonné les services linguistiques et marketing. Maintenant, je donne ça à des fournisseurs.
C'est parfait. Excellent. Okay, ben c'est quand même un gros move. Je suis impressionnée par le changement de carrière et de vie assez drastique. J'aime ça. J'aime beaucoup ça. Ça me parle.
Non, ça a été des gros changements, mais ça a été des bons changements.
Oui,
Faire
vraiment.
ce qu'on aime, là, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a juste pas de prix, ça.
Oui.
Puis
Ah oui.
c'est une grosse gratitude parce que tout le monde n'a pas la chance de faire un emploi qu'il aime, pour lequel il est payé pour, en plus. Donc, je me trouve chanceuse.
Ah oui, non, j'aime ça, c'est bien, c'est totalement. Puis c'est le fun parce que, tu sais, souvent qu'on va parler de poids, d'image corporelle, quand ces enjeux-là sont plus présents, parfois ça vient avec une estime de soi qui est plus faible, puis justement plus de difficulté à faire les grands sauts comme ça ou d'essayer des choses. Ou... Fait que je trouve ça inspirant de t'entendre parce que tu as une histoire avec ton image corporelle, avec ton poids qui va un peu plus dans l'autre sens. Fait que je trouve ça beau de voir que tu peux quand même rusher ton image corporelle puis vivre des changements importants dans ton corps puis quand même avoir l'estime de toi qui est pas juste associée à l'image corporelle, assez forte pour quand même te permettre de foncer puis d'essayer des choses. Puis ça, c'est vraiment un message que je trouve puissant, là.
Oui, je pense que c'est le côté un peu horrible de la chose. J'ai vécu tellement d'intimidation, puis tellement de violence en fait vis-à-vis de mon image corporelle, qu'en fait j'en ai fait quelque chose d'accessoire. Moi j'étais considérée, je dirais depuis de toute l'école et tout, j'étais la fille pas jolie en fait. J'étais un mouton à lunettes, j'étais la fille qui avait les cheveux courts, les cheveux crépus, dans un monde où il n'y avait quasiment que des blancs, désolée de le dire, mais c'était comme ça.
C'est vrai. Puis toi, dans le fond, c'est en France, ton
Ouais,
enfance, ton
en France.
adolescence, là.
Ouais, donc moi j'étais l'intello en fait. Donc l'intello, elle
OK.
n'a pas de corps. Elle n'a pas de corps, elle a son cerveau. Et puis j'étais la fille qui était tout le temps dans ses livres, j'étais celle qui parlait très peu. Puis c'est ça, j'étais considérée comme celle qui plaisait pas, celle dont on se moquait, celle à qui on faisait des blagues de genre ah oh, tu me plais, mais finalement non.
Ah.
Donc en fait j'ai mon image physique a toujours été quelque chose qui était entre guillemets à part. Puis j'ai vécu dans une famille quand même assez traditionnelle, dans le sens où tout ce qui était considéré comme sexy ou comme féminin, ça pouvait être dangereux un peu.
OK.
Donc malgré tout, moi toute mon adolescence, je l'ai passée en pull large puis en jean, quoi. C'est depuis très peu de temps en fait. C'est ce qui est drôle en plus, parce que j'étais quand même comme j'étais très très mince quand j'étais jeune en fait, très 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 mince, à la limite de la maigreur. Donc on se serait dit que ça aurait été là que j'aurais peut-être fait le plus de folie vestimentaire, mais en fait pas du tout. C'est aux alentours de la trentaine que j'ai commencé à m'habiller de manière beaucoup plus féminine, beaucoup plus sexy, alors que j'étais grosse quoi. Mais en fait, c'est là que j'ai affirmé mon style très tard, en fait, très très tard.
C'est vraiment intéressant comme parallèle aussi parce que tu mets le doigt sur quelque chose de super important. Comme tu dis, tu sais, normalement, on pense que la minceur dans une société est tellement valorisée avec la beauté et compagnie, puis que toi, tu t'es dit non, moi, quand j'ai assumé ma féminité, c'était vraiment plus tard dans la vie, puis ça prend pas un corps pour assumer sa féminité, ça peut être en lien avec tellement autre chose. Développer son image corporelle, c'est pas une question de poids finalement. Je trouve ça intéressant comme où tu as vécu les deux parallèles, finalement les deux opposés un petit peu, là.
Bah, en plus, moi, malgré tout le fait que j'étais très mince, en fait, j'ai toujours eu une poitrine plus importante que les autres, puis comme des hanches, puis des fesses. Ça, c'est le côté africain de la mixité qui est ressorti là-dedans. Et ça fait que j'avais un corps très, très, très fin, avec une grosse poitrine, puis des grosses fesses et des hanches larges. Donc, c'était un petit peu comme bizarre. Mais ce qui fait que autant je pouvais m'habiller dans n'importe quel magasin, autant pour tout ce qui était lingerie, c'était beaucoup plus difficile à trouver. En fait, il a fallu déjà à l'époque faire le deuil d'acheter, par exemple, mes sous-vêtements dans un magasin classique en fait.
Ah
Parce
oui.
que le E à l'époque, en France, dans les magasins, ça n'existait pas.
Aïe, aïe.
Là, Si on avait du D, c'était déjà de la chance.
Ben voyons donc.
Donc moi, du E limite F, bah pour la petite histoire drôle, en fait, c'est que on n'était pas en plein Internet comme aujourd'hui, là, c'était dans les années, début des années 2000, là, donc je cherche sur Internet avec mon moteur de recherche Lycos. Où est-ce que je peux trouver des soutiens-gorge à ma tâche, peu de taille, parce que je n'en trouve pas. Et en fait, l'histoire drôle de là-dessus, c'est qu'en fait, je n'ai trouvé des soutiens-gorge à ma taille, puis qui n'étaient pas plain, là, comme juste beige et blanc, sur en fait un sex shop.
Un site quoi?
Un sex shop.
Ah!
Donc moi j'étais la fille qui sortait de sa campagne qui avait eu un enfant dans sa vie puis qui m'a dessiné ses soutiens-gorge dans un sex shop en fait.
Waouh, quand même, c'est fou.
Mais c'était là que je pouvais trouver pour mon budget d'étudiante, parce que c'est ça, le EF c'était considéré comme sur des tailles trop grandes, donc en fait tout de suite ça me coûtait, je pouvais chercher oui chez Valège, chez Orcanta, Chantel, etc. Mais c'est tout de suite 100 € le soutien-gorge.
Ish, aïe aïe.
Quand t'es étudiante, t'as pas ce budget-là en fait.
Mais non.
Donc en fait là c'était tout de suite plus 15-20 €, donc c'était plus proche de mon budget d'étudiante. Et en fait c'est là que j'ai acheté. Je pense que j'en ai pas parlé avant longtemps de cette histoire-là, parce que j'étais un peu gênée. Mais maintenant, avec le recul, je trouve ça drôle, parce qu'au final, on se rend compte que du côté du travail, du travail du sexe, en fait, ils sont parfois plus inclusifs que dans le
milieu. Ouais. En fait.
Parce que c'était même pas des soutiens-gorge genre super ajourés ou quoi que ce soit. C'était vraiment des trucs qui étaient jolis, comme on pouvait trouver dans n'importe quel magasin de lingerie. Mais à ma taille.
Ben voyons donc. Mais c'est quand même assez aberrant que ça arrêtait aussi. Je sais pas, tu sais, j'essaie de me rappeler au Québec, parce que ma propre mère portait plus que du D, là, finalement. Puis j'essaie de me rappeler, mais je pense que déjà à l'époque, dans les années 2000, on avait plus d'options de taille. Je pense qu'il y a vraiment un gap.
Ouais, vrai
qu'en France, je pense qu'il y a quand même une bonne différence au niveau des vêtements en général, là.
Oui, quand je suis arrivée au Québec en 2009, j'avais aucun problème pour trouver du
E
dans les magasins. Je suis allée chez la Senza, il y avait déjà du E à l'époque.
Ouais, c'est ça. C'est à ce magasin-là que je passais. Je me sens ok. C'est...
Mais ouais. En France, non. En France.
Voyons donc.
Petite, là, tu sais.
En fait, c'est logique parce que. Ouais, c'est ça. J'ai juste pas pensé. C'est la première fois qu'on aborde, je pense, les sous-vêtements. Puis les comparer avec la France, les vêtements, on le sait, tu sais, c'est même les tailles, pour la même taille ici versus en France, il y a vraiment une marge dans la grandeur du vêtement, mais je m'attendais, on dirait que j'ai pas réfléchi à même les sous-vêtements quand même, même pour les fortes poitrines, ça va loin.
Bah oui, parce qu'en plus, après, c'est une question de bonnet, c'est une question de tour de taille aussi, parce que jusque-là, ça allait, parce que, comme je disais, j'étais mince, donc j'avais un petit tour de taille, mais un grand bonnet. Donc, à la rigueur, je pouvais quand même trouver à peu près. Mais quand j'ai pris du poids, là, c'est posé le problème du tour de taille qui ne se faisait plus, même dans les magasins en ligne que je trouvais.
Ah, mon Dieu, ok.
Bah oui, parce que dans un sex shop, le but, c'est grosse poitrine, petite taille.
Aïe, aïe, aïe. Quand on a une forte taille, on n'a pas le droit de... Okay.
Non, tu dépasses pas, en fait. Dès que tu dépasses une limite ou quelque chose, en fait, c'est là où ça devient problématique, en fait.
C'est terrible.
Ouais. J'avoue que m'habiller, ça a toujours été un peu... Ça a toujours été un challenge pour moi.
Ah non, mais je comprends tellement. C'est comme... C'est vraiment la base aussi, là, on parle pas juste de vêtements, là, on parle de sous-vêtements. Il n'y a pas plus de base que ça dans la vie. Là.
Ouais. Puis quand tu as une poitrine qui est comme plutôt volumineuse, le no-bras, ça n'existe pas, en fait.
Non, c'est ça. Mais c'est ça. Effectivement, tu sais, ça prend. C'est ça.
Moi, je cours après un bus, je m'assomme. Hein. Donc, c'est pas possible, quoi. Je ne peux pas faire sans soutien-gorge, malheureusement. Mais dans la vie de tous les jours, mais oui, c'est des enjeux en fait. Autant dans les
quand même.
vêtements classiques que dans les sous-vêtements.
C'est quand même étonnant parce que quand on y pense, c'est tellement bien vu les fortes poitrines. C'est tellement associé justement à la sexualité, à la féminité. Plus la femme a une grosse poitrine, plus c'est désirable. C'est tellement valorisé, mais il faut que ça soit associé à un certain tour de taille.
Mais c'est ça, quand même, c'est effrayant. Tu peux, si t'es grosse avec une grosse poitrine, ça va pas. Si t'es mince avec une grosse poitrine, ça va.
Aïe, aïe, aïe. C'est courageux.
Tu sais, c'est le sablier qui est valorisé.
Oui, tout à fait. Puis est-ce que maintenant, aujourd'hui, à l'heure actuelle, si tu magasines en France, est-ce que c'est les mêmes enjeux qu'avant? Ou est-ce que tu as remarqué qu'au niveau justement de l'offre de sous-vêtements, ça avait un petit peu évolué?
Ça a évolué, bien sûr, mais là, je dirais que c'est le parallèle France-Québec, c'est la même chose, parce que maintenant, je suis dans une taille beaucoup plus grande encore, et je suis hors norme autant en France qu'au Québec. Et moi, le soutien-gorge, c'est 100 euros ou 100 dollars, quoi.
C'est fou, hein? Ouais.
C'est, maintenant, je suis en J, donc... avec un tour de taille qui est quand même plus grand que la normale aussi, puisque je fais du 110J. Puis dans du 110J, tu trouves ça nulle part. Nulle part.
Oh, ouais. OK. Parce que c'est comme pas évident, tu sais. Déjà, non. Toi, tu dis que ton corps a eu beaucoup de changements qui est associé à, bon, peu importe la raison. Puis après ça, c'est d'essayer justement d'apprendre à être bien dans ce corps-là, à sentir bien, à sentir femme, à sentir féminine, mais tu peux même pas trouver, ne serait-ce qu'un soutien-gorge qui te fait sentir comme ça sans vider ton portefeuille, là, ce qui est quand même assez aberrant.
Et ben c'est ça la question, c'est parce que malgré tout, ben, maintenant je travaille, j'ai 38 ans, je suis plus aux études et tout, donc j'ai quand même un certain budget que je peux allouer à comment je m'habille. Mais malgré tout, ça reste quand même un enjeu parce que on n'a pas envie non plus de mettre tout son salaire dans de soutien-gorge.
C'est ça. Mais c'est parce que là, on parle de soutien-gorge, mais après ça, il y a les vêtements, il y a les maillots de bain, il y a tellement, tellement, tellement de choses. On parle de travail, de vêtements de travail. C'est ce n'est que le début, là, quand tout ton budget doit passer dans l'habillement. Alors que la personne à côté qui est dans un corps qui fit plus dans ce qui est offert, c'est ça qui est dommage, là, c'est cette injustice-là finalement. Pourquoi un corps différent, plus de facilité à s'habiller, puis ça coûte moins cher, etc., etc.
Ouais, ben c'est drôle parce que comme cette discussion revient souvent sur les réseaux, mais c'est la question de Shane.
Ouais, ouais.
Mais tu sais, comme je disais, moi j'ai une entreprise qui est féministe, qui est militante, donc j'ai quand même cette espèce de militance aussi au niveau de l'écologie, au niveau des droits humains et tout.
Ouais.
Et en fait, je me retrouve achetée dans une entreprise où en fait l'éthique me convient absolument pas. Mais en fait, Shein, c'est un peu la seule marque où je peux m'habiller pour qu'il soit dans un budget comme correct. Donc, je vais y aller à l'essentiel, ce dont j'ai besoin. Tu sais, je m'achète pas 15 000 vêtements toutes les semaines, là, non plus. Mais la question est ça, parce que oui, j'aimerais m'habiller en Made in Québec. J'aimerais ça. Tu sais, il y a des vêtements qui sont très jolis. Mais dès qu'on parle de grande taille, mais on n'a rien qui, même dans les créateurs québécois, ou dans les créateurs locaux, disons, on n'a rien qui soit, entre guillemets, saillant, ou qui soit joli, ou qui soit, c'est long, c'est large, c'est au-dessus, vraiment au ras du cou, puis en fait, il n'y a pas de... C'est comme si on voulait faire disparaître absolument le corps. En fait. On est dans une disparition du corps qui est hallucinante. Alors que Shane, eux, ils s'en fichent, en fait. Ils te font des trucs. T'as des crop tops, t'as des robes super ajourées, t'as, T'as des trucs, même pour aller, bon, j'y vais pas, mais je vois des trucs pour aller en boîte, genre dans des festivals et tout, que en fait on trouverait absolument nulle part, à part encore une fois dans les sex shops.
Ah ouais, c'est quand même hallucinant. Mais c'est vrai, j'avais cette discussion-là aussi avec un épisode complet sur l'inclusion dans les vêtements, puis avec Nadia Tranchemontagne, puis c'était un petit peu la discussion aussi de dire, ben c'est beau être inclusif, mais tu sais, il y a l'inclusion, ça, des fois, ça va être au niveau du prix aussi, tu sais, est-ce que c'est vraiment accessible à tous? Puis après ça, c'est de dire, mais ben, effectivement, les compagnies de vêtements qui se spécialisent un petit peu plus dans le taille plus. Ben c'est toujours un petit peu le même modèle, le même genre de modèle qui revient, puis ça convient pas nécessairement à tous, mais tu sais, le gros parallèle là-dedans qui ne fait aucun sens, c'est que c'est plus de la moitié des Québécois qui ne fitent pas dans le fameux poids standard, donc qui ne fitent pas nécessairement dans les tailles qu'on va retrouver. Fait que l'offre ne va pas en fonction de la demande. Ça, je pense qu'il y a plein de raisons plates associées à ça qui doivent être discutées et dénoncées, sensibilisées encore plus et plus et plus. Mais reste que c'est vrai que présentement, l'offre ne correspond pas du tout aux besoins de la population québécoise. Là.
Mais on s'entend que des filles qui font entre la taille 0 et la taille 6, c'est des adolescentes.
Ouais.
La plupart, c'est des adolescentes. Parce qu'elles n'ont pas encore leur taille définitive, elles n'ont pas entre guillemets leur poids définitif. Puis voilà, elles sont en pleine croissance, donc la croissance fait que, on est plus mince. Mais la femme moyenne, je dirais, de la trentaine, elle fit dans du 12-14, quoi. Qui est entre guillemets la dernière taille qu'on trouve en magasin, le 14.
Exact.
C'est dingue! Et en France, c'est encore pire. En France, c'est encore pire. Quand la taille moyenne de la femme est 44, 42-44, et le maximum qu'on trouve souvent, c'est 42-44. De quelques magasins font du 46, mais c'est du petit 46. Hein. Ils ont
Aïe, aïe,
le 46 que tu prends
aïe. Ouais, c'est ça.
en chausse-pied pour te mettre dedans, là.
Ça,
Donc,
c'est une autre affaire, hein, parce que c'est beau être écrit 46, mais comme tu dis, 46 dans un magasin, 46 dans un autre, yippee-la-aïe-lou! C'est pas du tout la même chose. Ça aussi, c'est un autre problème. Hein.
puis le 46 aujourd'hui, le 46 d'il y a 10 ans, c'est pas le même.
Ah oui, ah non, c'est le même aussi.
Mais oui, ben moi j'ai toutes les tailles hein, dans mon garde-robe. J'ai du 12, j'ai du 14, j'ai du 16, j'ai du 18, j'ai du 20, j'ai comme. Tu sais, en fait, faut pas regarder la taille, faut juste essayer
Non,
le
c'est
vêtement.
ça. Exact.
Sur
Non, moi
Internet.
aussi, c'est la même chose, là. Mes pantalons, tu sais, j'ose plus acheter en ligne des fois parce que je me fais avoir. Je pense que c'est cette taille-là, puis finalement, hip, boboy, c'est pas ça pantoute. Puis pas nécessairement parce que mon corps a changé, juste parce que d'une compagnie à l'autre, la même taille est complètement différente. Puis des fois, même dans la même compagnie, d'une année à l'autre, ça m'est arrivé de racheter la même paire de pantalons un an plus tard, puis les mettre côte à côte, une par-dessus l'autre. Puis il y avait vraiment une marge, puis c'était la même taille, là, mais il y avait une bonne marge quand même, là.
Ouais, mais en fait, ce que j'ai appris pour magasiner, c'est qu'il faut jamais regarder les tailles, il faut regarder les mensurations.
Tout à fait.
Donc, moi, je prends régulièrement mes mensurations, puis en fait, je regarde les mensurations sur tout ce que j'achète, tout, 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 tout. Même article par article, parce que des fois, les mensurations ne sont pas les mêmes.
C'est ça. Non, c'est ça, j'allais dire. C'est effectivement le cas. Je pense que c'est sur chaîne aussi qu'il y a des bonnes différences des fois d'un
Oh, mais.
produit à un autre, là. C'est quand même impressionnant.
Oh, Shane, on peut aller du L au 6XL sans aucun problème.
Ouais,
Dépendant
c'est ça.
du truc, les tailles sur Shane, elles veulent absolument rien dire. Absolument rien dire.
Mais c'est bon d'en parler puis de le normaliser, ça aussi, parce que c'est des choses qu'on entend souvent de dire, c'est tellement mal vu de devoir changer de taille ou d'augmenter de taille, puis la fille va se dire, ah, mais c'est à cause de moi, j'ai pris du poids. Ben, puis peut-être que c'est le cas, puis so what, là. Honnêtement, c'est pas important. Mais même si ton corps n'a pas changé, de reprendre la même taille, des fois, c'est juste le vêtement qui est fait plus petit. Donc, c'est même pas ton corps qui a changé, fait que ça devient super confrontant. Parce que la société démonise tellement l'augmentation de taille de vêtements, mais tellement, alors que c'est normal que le corps change, c'est normal que le corps évolue. Toi, tu as vécu deux grossesses, tu as vécu des changements aussi. C'est des choses qui arrivent, si on a de la médication à prendre, ça peut influencer. Puis des fois, on en parlait un petit peu avant d'enregistrer, des fois, c'est une question de survie aussi, la médication, là. Donc oui, elle peut influencer le poids, mais il y a des questions à se poser. Est-ce que je continue ou... ça influence mon poids, puis je continue ou j'arrête tout simplement, parce que si je ne me traite pas, c'est ma vie ou c'est mon poids, là.
C'est ça, exactement. Après, chacun fait les choix qu'il veut, puis il n'y a pas de bonne ou de bonne mauvaise réponse, en fait. Il y a des gens pour qui prendre du poids avec les médicaments, c'est tellement trigger que, en fait, ça serait encore pire que le mal. Pour moi, en fait, je pense que j'étais tellement mal à l'époque que mon poids était vraiment la dernière chose qui me préoccupait, en fait. Moi, tout ce qui me préoccupait, c'est de voir le lendemain, en fait. C'était pas mal ça. Donc, j'étais vraiment pas. Puis, je pense que, en fait, j'étais tellement dans le brouillard que, en fait, je me suis réveillée un matin, puis je me suis juste pas reconnue dans la glace. Parce que moi, souvent, les glaces, c'était. De toute manière, j'avais très peu de miroirs chez moi. Je supportais très mal de me voir dans un miroir, déjà à la base. Donc, en fait, tous les miroirs étaient retournés chez moi. Donc j'ai fait un changement de corps et de visage sans m'en rendre compte vraiment, à part en changeant de taille de vêtements, puis en rentrant plus dans mes vêtements au fur et à mesure. Mais je pense que j'étais tellement sur le mode automatique que je rachetais des vêtements à ma taille. Puis vous savez, tu sais, quand on est étudiante, un jean puis un t-shirt, c'est pas insuffisant. Non, mais surtout dans un pays. Moi, j'étais en France, donc dans un pays où il n'y a pas de changement de température si drastique que ça. Donc,
C'est vrai, ça m'a au point.
j'avais pas de trucs d'hiver à magasiner, des choses comme ça. Donc, en fait, ça s'est vraiment fait sur le pilote automatique. Ça a été plus dans ma vie professionnelle que ça a été plus compliqué, puisque j'étais adjointe administrative à l'époque. J'étais adjointe juridique. Donc, il y a une espèce d'uniforme à porter. Mais là, c'était plus. Là, encore, mon problème n'était pas tant les vêtements que les hauts, parce qu'il fallait que je porte des chemises. Puis en fait, les seules chemises qui m'allaient, c'était au rayon homme.
Ah, mon doux.
Parce que
Mais oui.
au rayon femme, soit c'était beaucoup trop large au niveau de la taille, soit c'était beaucoup trop serré au niveau de la poitrine. Puis dans ce cas-là, j'avais comme le devant qui bâillait. Donc en fait, les seules chemises que je pouvais porter à une certaine époque, c'était les chemises pour hommes.
Quand même. C'est confrontant, ça aussi, de dire je peux même pas trouver quelque chose qui fit à ma taille dans le rayon femme. C'est assez.
Bah, c'est qu'à un moment, je fitais juste plus dans le rayon femme du tout. Au Québec, c'était un peu moins compliqué. Quand je suis arrivée au Québec, c'était moins compliqué parce que les tailles sont beaucoup plus inclusives au Québec. Puis malgré tout, on peut trouver sur des sites américains qui sont pas trop loin, malgré les frais de douane. Malgré tout, c'est quand même plus facile de s'habiller au Québec. Mais on est arrivé quand même à un moment où aller dans un magasin, c'était trop confrontant en fait. Déjà, j'avais tendance un peu agoraphobe et tout, donc déjà faire les magasins pour moi c'est confrontant. Mais en plus, aller dans un magasin, essayer des vêtements. Le point c'est que je suis autiste en plus, donc les textures, essayer différentes textures, essayer des étiquettes, des machins, des trucs, pour moi c'est l'enfer. Et finalement ressortir avec zéro truc parce qu'il n'y a rien qui fit. J'ai l'impression d'avoir, un, perdu mon temps, et deux, je suis en surstimulation totale, en fait. J'ai l'impression, en fait, de me sentir mal, mais pour rien, en plus. Pour aucune raison. Bon, ce qui fait que maintenant, je magasine beaucoup, beaucoup, beaucoup en ligne, en fait. C'est vraiment comme. En ligne, c'est mon meilleur ami, quoi.
Puis j'imagine que l'offre est un petit peu, peut-être un petit peu plus, t'as plus de possibilités que si tu restais à un endroit spécifiquement aussi. Malheureusement, c'est la réalité quand même.
Oui, c'est plus facile. À un moment aussi, j'ai pris des cours de couture. Après mon premier
OK.
accouchement, j'ai pris des cours de couture avec la chance d'avoir une professeure qui ne faisait pas ma taille, mais qui m'a fait des patrons
Ah, c'est bien ça.
individuels en fait pour moi. Elle a adapté tous ses patrons pour que je puisse fitter dans ça. Elle m'a appris à augmenter les patrons aussi que je trouvais, parce que les patrons, c'est parfois des patrons... Je faisais de la couture vintage en plus. Donc les patrons vintage, le problème c'est que c'est des patrons qui ne sont pas à la taille d'aujourd'hui. Mais elle m'a appris tout ça en fait. Donc, et je pense vraiment que c'est ce cours de couture qui m'a boostée au niveau de mon corps en fait. Parce que pour la première fois, j'avais des choses qui m'allaient, mais qui m'allaient parfaitement en fait. Parce que le premier cours que j'ai pris, c'est un cours de corset. Parce que j'adore les corsets. J'adore ça. Franchement, j'en porterais tous les jours si je pouvais. Et en fait, c'est ça le premier truc que j'ai fait. Et en fait, quand je me suis vue avec, j'étais comme, ah ouais, je peux ressembler à ça, en fait.
Ah oui.
Je peux ressembler à quelque chose. C'est horrible à dire comme ça. Parce
que généralement... Non, mais c'est que toute ta vie, ce que tu as appris, c'est à trouver des vêtements qui ne t'avantagent pas parce qu'ils ne sont pas faits pour toi, ils ne sont pas faits pour ta taille à toi, puis que tu as toujours cherché à trouver quelque chose qui te faisait point, qui pouvait t'habiller. C'est dur, là, de pouvoir dire, tu sais, quand on travaille à justement augmenter sa confiance en soi, son image corporelle, on se dit, bien, on va essayer de trouver des vêtements qui nous font du bien, dans lesquels on se sent bien physiquement, mais on se sent aussi féminine. Ça met des parties de notre corps en valeur qu'on aime. Mais quand tu n'as jamais eu ça, c'est tout qu'un défi, là, j'imagine.
Oui et non, parce que, en fait, oui, c'est un défi, mais par rapport à ce que tu dis, je te dirais oui et non, parce que moi, mon rapport à mon corps est très, 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 très compliqué. Un, par l'intimidation que j'ai vécue. Deux, par les violences que j'ai vécues avec des conjoints. Donc, moi, mon but, c'était d'être le moins visible possible.
Ouais.
Je pense d'ailleurs que le poids que j'ai pris est aussi dû non seulement aux médicaments, mais aussi dû à ça. Dû psychologiquement au fait que je voulais juste disparaître. C'était vraiment ça, et je ne voulais plus être attirante en fait. Pour moi, c'était vraiment parce que pour moi, attirance égale danger.
Oui.
Donc, je m'habillais avec des choses dans lesquelles j'étais bien, je dirais, au niveau des textures, mais déjà, je m'habillais tout en noir. Je me suis habillée en noir jusqu'à mes 30 ans. 30 ans, j'étais en noir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comme c'était... J'ai eu une espèce de période gothique qui s'est prolongée très longtemps. En fait, elle se prolonge aujourd'hui aussi, mais avec des couleurs comme le rouge ou le violet, qui sont quand même des couleurs qui sont quand même plus visibles. Mais en fait, justement, ce corset était en rouge et noir. C'était un des premiers vêtements de couleur que j'avais dans ma garde-robe, en fait. C'était très drôle parce que quand il était dans mes armoires, en fait, on le voyait parfaitement parce que tout était noir, sauf lui. Mais c'est ça, en fait. Bon. C'est quand t'as cette espèce de désir de disparaître, ouais, en fait, ce désir de disparaître, en fait. Ça a joué, je pense, sur mon image de moi, sur mon image. Puis à un moment, parce qu'il y a eu le moment où je voulais juste survivre, donc j'ai pris des médicaments, mais après la question c'est, ok, j'ai 27 ans, ou 28, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux survivre? Parce que pour moi, dans ma tête, je ne passerai pas 25 ans. En fait. Pendant longtemps, ma date butoir, c'était 25 ans. Et une fois passé 25 ans, c'était la question, c'était ben, est-ce que je veux survivre comme je le fais depuis toujours, en fait? Ou est-ce que je veux vivre? Mais si je vis, va peut-être falloir que je travaille encore plus, malgré toutes les thérapies et tout que j'avais faites, mais il va falloir non plus apprendre à survivre, il va falloir apprendre à vivre. Et apprendre à vivre, c'est se confronter aux autres. C'est se confronter aux autres. Puis là, vouloir être entrepreneur, c'était encore plus se confronter aux autres.
C'est ça, hein? Oui, ça aussi, c'est un saut de plus, là. C'est s'exposer encore plus.
C'est là la différence entre un travailleur autonome et un entrepreneur, je dirais. Quand j'étais travailleuse autonome, j'étais derrière mon ordinateur, je trouvais des clients, je faisais le contrat, puis voilà. Une fois que j'ai ouvert mon entreprise, on n'était plus du tout dans le même truc, surtout que j'ai une entreprise militante, donc je porte une voix, je porte la voix de ceux que j'essaye de protéger, c'est-à-dire les femmes et les personnes marginalisées. Mais on ne peut pas le faire derrière son écran, en se cachant. Donc, une des premières choses, ça a été faire un shooting photo.
Une grosse étape.
Puis pas un shooting boudoir, là, le truc super simple d'entrepreneur où tu es derrière ton ordinateur et puis on te prend en photo dans un café, là. Pour moi, ça a été très, très dur de le faire. Je l'ai fait avec un ami de mon conjoint de l'époque. Je ne savais pas comment me placer, je n'avais aucune idée de comment je devais m'habiller pour ce truc. D'ailleurs, c'est très, très corporate, en fait. Je suis en tailleur. Je veux dire, il n'y a aucun fun dans ce shooting-là. Puis quand je vois ce shooting-là, ce qui est le premier shooting, puis ce que je fais maintenant, mais ça n'a rien à voir, en fait. Ça a été parce que non seulement la société renvoie aux personnes grosses une idée qu'elles ne sont pas correctes d'être comme ça, mais qu'on finit par l'internaliser, nous aussi, en fait. Et on finit par, par se taper sur les doigts, deux, de prendre des décisions qui ne sont pas forcément bonnes pour notre corps, par exemple, comme faire des régimes drastiques ou des choses comme ça. Mmh. J'ai la chance de ne pas en avoir fait beaucoup et puis d'être assez, aware du fait que ça, c'était pas bon pour moi et donc de ne pas le faire. Mais c'est toute une réappropriation à faire. Puis moi, dans ma tête, ben, je suis toujours cette fille mince, en fait. Cette fille mince de 20 ans qui n'a pas vu son corps changer. Pour moi, c'est horrible de dire. Je le dis souvent, mais c'est... Tu sais, je le dis souvent aux gens qui m'entourent, mais ce n'est pas mon corps, en fait. Je ne me sens pas dans mon corps parce que c'est, pour moi, c'est le corps de celle qui allait mal, en fait, et qui essayait de s'en sortir. Mmh. Puis en y réfléchissant un petit peu mieux, je me dis que bah oui, en fait, c'est mon corps. C'est le corps de celle qui a survécu, celle qui a pris les choses en main, celle qui s'est médicamentée et qui a pris trois fois son poids en se médicamentant. Mais donc, en fait, moi, plus que mon corps, c'était dans ma tête. C'était qu'est-ce que je fais avec ce corps que je ne reconnais pas ? En fait, faut que je le regarde, faut que je l'habille, faut que j'en prenne soin. Puis il faut que j'arrête de dire que c'est pas mon corps, en fait. Parce que c'est mon corps. C'est mon corps de femme de 38 ans qui a eu deux accouchements, qui a une diastase, qui a un œdème, qui a une poitrine qui pourrait assommer quelqu'un. Puis voilà, en fait. J'ai eu de la chance, même si c'est mettre la barre basse quand on dit ça, mais j'ai rarement eu à être confrontée à la grossophobie dans mes relations, plus au racisme que la grossophobie, bizarrement, mais j'ai jamais eu de problème à fréquenter des gens, j'ai jamais, même des gens qui ont souvent été considérés hors de ma ligue, entre guillemets. Mais j'ai jamais eu de problème de relation amoureuse ou quoi que ce soit. Les problèmes étaient plus par rapport aux expériences de violence que j'ai vécues que par rapport à mon corps. Et j'ai jamais eu de problème à plaire. Puis comme je disais, comme on en parlait avec mon conjoint actuel, il disait... Ouais, j'ai pas un physique typique. J'ai pas le physique de... Même au niveau du visage, je veux dire, j'ai pas le physique de la fille que tu retrouves sur un magazine. Par contre, je sais que je plais. Beaucoup. Et je pense que l'important, c'est pas forcément de plaire à l'autre, c'est de se plaire à soi aussi.
Oh, parce que c'est beau que j'aime ça.
Parce qu'en fait, longtemps, en fait, j'ai cherché dans le fait de plaire aux autres une espèce de validation, en fait. Et je me suis rendu compte, je pense que c'était il n'y a pas longtemps, pas si longtemps, c'est qu'en fait, dès que je me sentais mal dans quelque chose, j'allais chercher cette validation. Que ça soit dans des forums, surtout quand j'étais célibataire, enfin, en fait, quand j'étais célibataire, parce que je faisais pas ça quand j'étais en couple, mais dès que je me sentais pas bien, en fait, j'allais sur un site de rencontre, puis j'attendais qu'on vienne me parler, tu vois. J'avais besoin de cette espèce de... Puis ça a été long, mais en fait, je m'en étais pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte il y a pas longtemps, en fait. Mais en fait, cette validation, elle fluctue, parce que la validation des autres, elle est toujours fluctuante. C'est pour ça qu'après ma grossesse, j'ai vraiment refait une partie de ma garde-robe. Je suis allée dans des trucs beaucoup plus colorés, beaucoup plus courts, beaucoup plus moulants, je dirais. Parce qu'au final, comme je disais, c'est mon corps. C'est mon corps, il est là, puis lui taper dessus, ça va servir à rien. Parce qu'il va falloir que je l'endure entre guillemets jusqu'à la fin de mes jours. Donc est-ce que je vais le détester jusqu'à la fin de mes jours, ou est-ce que je le regarde et puis je lui dis merci,
en fait. C'est un autre choix à faire, ça aussi, là. Ouais, effectivement.
Mais là, c'est mon vécu. En fait, c'est... Puis là, je parle vraiment que de mon vécu, en fait. Parce que je sais que tout le monde ne le voit pas comme ça, et puis c'est correct aussi, en fait. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise manière de faire les choses, de se voir, de... Puis je pense que c'est ça pour les problèmes de l'atypie, que ça soit au niveau du corps, que ça soit... Parce que moi, je les cumule un peu, les atypies. Je suis autiste, je suis une femme racisée, je suis une immigrante, je suis une femme, je suis grosse. Donc, dans toutes ces sphères-là, en fait, on essaye de gérer comme on peut dans une société qui, en fait, est pas faite pour nous, qui veut pas de nous, qui veut qu'on rentre dans une petite case. Puis que ça soit des filles qui fassent des régimes à répétition pour rentrer dans leurs jeans, ou qui fassent, je sais pas, de la chirurgie bariatrique ou de la chirurgie tout court. Chirurgie moi-même auquel je pense au niveau surtout pour mes problèmes de dos, mais j'y pense quand même. Mais en fait, il n'y a pas de bonne réponse.
Exact. Et chacun trouve sa façon.
Mais on parle de beaucoup de body positive. On parle beaucoup. Mm-hmm. Mais puis c'est très bien, franchement, je suis vraiment contente que ça existe, cette espèce de réappropriation par et pour les personnes grosses. Mais le truc, c'est que en fait, il y a pas de... Les filles qui se cachent sont aussi valides que les filles qui se montrent. Puis chapeau les filles qui se montrent, parce qu'en fait, c'est grâce à elles beaucoup que on apprend à s'accepter, qu'on apprend à voir qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a d'autres manières de s'habiller, que je pense entre autres à la chanteuse Lizzo.
Oui.
Je veux dire, moi, la première fois que je l'ai vue dans un clip, j'étais waouh. Tu sais, puis quand on dit que les filles grosses sont pas fit, qu'elles sont pas sportives. Mais moi, je parie sur personne à part elle de pouvoir chanter, faire de la flûte traversière, chanter, danser sur des talons de 15 cm à travers une scène de glisse. Mais ouais. Moi, je suis impressionnée. C'est ça. Je pense qu'on est dans une ère où il faut qu'on se détache du fait que, un, les filles qui sont grosses font pas de sport, qu'elles mangent trop, qu'elles... Parce que c'est pas toujours le cas, et même si c'est le cas, mais qui sommes-nous en fait pour juger, en fait?
Exactement, c'est pas de nos affaires, tout à fait, totalement. Mais je suis contente que tu amènes le point du body positivity, parce que un phénomène le revers de la médaille du mouvement que je commence à voir, c'est un petit peu, ça devient comme un nouveau, des fois, standard, que c'est un petit peu trop, pas trop extrême, mais ça devient comme un nouveau standard de, il faut que je m'accepte moi aussi, donc, parce que les personnes que je vais suivre sur les réseaux sociaux s'acceptent à 100%, c'est montré à 100%, j'aime mon corps, j'aime tout, accepte ta cellulite, accepte ton ventre, accepte, bon, peu importe. Mais il y en a qui vont me dire, mais moi, j'ai quand même de la difficulté à y arriver, puis c'est pas accessible pour moi, puis j'envisage quand même certaines, justement, comme on parlait tantôt, certaines chirurgies, que ce soit esthétique, que ce soit bariatrique, peu importe, j'envisage de la médication pour X, Z raisons pour le poids, puis là, elle va se sentir coupable. Donc, elle va se sentir coupable d'être dans un corps gros, à la base, parce que la société ne veut pas des corps gros. Puis après ça, ben, elle va se sentir coupable de ne pas être capable de rentrer dans la case. Ben, il faut que je m'accepte, puis je suis une personne grosse, puis je m'accepte. Fait qu'ils se retrouvent un peu entre deux chaises, ces personnes-là, qui sont un peu laissées, pas à l'abandon, mais c'est un phénomène que j'observe vraiment de plus en plus, puis qui est super tabou. Parce que quand on commence à décider d'en parler, c'est mal vu. C'est vu comme si ces gens-là étaient grossophobes, c'est vu comme si ces gens-là ils s'aimaient pas nécessairement, puis que c'était à eux autres de régler leurs problèmes, ou je sais pas trop comment le dire, mais moi, il m'arrive avec tout ce bagage-là, finalement, puis c'est honteux. Puis là, c'est la double honte, parce que j'appartiens pas à la clique des gens qui sont des personnes grosses qui s'acceptent à 100%, puis j'appartiens pas à la clique des autres personnes qui sont des personnes dans des corps plus standards. Fait que moi, je me retrouve où là-dedans? Fait que je trouve ça intéressant que tu le nommes, parce que tout le monde a sa place. T'sais, c'est vraiment ça, tout le monde trouve son chemin à soi, il y a pas un chemin nécessairement. On n'est pas obligé d'arriver à aimer 100% de soi, peu importe son format corporel. On peut aussi être dans la neutralité corporelle, tout simplement. Puis c'est bien correct comme ça. Je pense qu'il ne faut pas être dans le jugement. Je ne sais pas ce que tu en penses de ton côté.
Effectivement, bah, c'est un peu le problème général de ce qu'on appelle la pureté militante, en fait. Puis c'est le problème aussi très féminin de fais-le pas, de toute manière t'as tort. Mais les personnes grosses, puis je parle des personnes vraiment comme qui sont vraiment hors normes, n'ont pas cette pureté militante là. Si on regarde des gens comme Nizo, comme Nadia justement, Nadia dont que tu évoquais.
Oui, toi, oui.
Si on prend des gens, plusieurs comptes comme ça, même quelqu'un qui rentre un peu plus dans la norme, mais qui, elle, c'est du postpartum, qui est Bird Papaya, je pense, son nom.
Oui.
Qui est un peu plus stéréotypé au niveau du corps, mais qui a un ventre qui fait qu'elle sort de la norme, en parle du fait que, justement, bah oui, elle s'accepte, oui, elles sont plutôt bien dans leur corps, mais oui, il y a des jours où c'est dur de se voir, il y a des jours où tu essayes un vêtement, ça ne te va pas, puis tu pleures, puis qu'il y a des jours où tu te regardes dans la glace, puis tu te trouves vachement moche. Et je pense que le problème de cette pureté militante vient surtout des gens qui sont légèrement en dehors de la norme. Parce que justement, elles sont très proches de la norme. Et que, oui, avoir, des vergetures, de la peau d'orange, un ventre un peu tombant, un tablier, des choses comme ça, ça ne rend pas quelqu'un gros.
Tout à fait.
Et ces gens-là qui, justement, rentrent dans des tailles standards, mais ne sont pas complètement standards, sont sur une acceptation de soi totale. Mais entre guillemets, c'est normal, puisque de toute manière, elles vont dans un magasin, elles trouvent leur taille. Peut-être 46, ouais. Etc. Mais elles trouvent leur vêtement. Elles fit dans les sièges du canapé, du cinéma. Elles fit dans les sièges de l'avion.
Le niveau de contrainte est très bas, là. C'est pas du tout la même game, là.
Parce que, tu sais, puis les réseaux sociaux font aussi que on veut montrer du positif, beaucoup de positif.
Oui.
Puis, Puis c'est dur, c'est dur de se dire, tu sais, j'inspire beaucoup de gens, mais comment je fais pour leur dire que moi aussi j'ai des doutes, parce que je veux pas qu'ils aient des doutes, parce que je veux qu'ils soient bien. Et en fait, en ne montrant pas ses doutes, c'est là où on fait douter les gens en face.
Exact, exactement.
Mais souvent, mais... des gens qui deviennent des icônes, de n'importe, je parle de n'importe quelle oppression, hein, ont cette envie de bien faire aussi.
Tout à fait, c'est toujours des bonnes intentions.
De montrer le bon côté, parce que pour montrer ouais. qu'il y a de bons côtés, parce qu'on bombarde tellement avec le côté négatif d'être gros, d'être noir, d'être neuroatypique, d'être ceci, d'être cela, qu'on veut montrer qu'il y a du positif, qu'il y a des choses bien. On n'a pas envie de rajouter au négatif sur le négatif qu'il y a déjà. Mais ça fait que on donne l'impression que tout est beau, tout est parfait, on est bien dans notre corps, on s'habille avec des vêtements qu'on adore, etc. Et on ne montre pas le côté plus sombre. Mais je trouve que justement, les personnes qui vivent le plus fort les oppressions le font, le montrent ce côté négatif. Par exemple, Nadia, que je trouve...
C'est ce que j'allais dire, je l'adore.
Moi aussi, j'en fais de la pôle. Pas plus maintenant, parce que j'ai une diastase, donc je suis coincée, je ne peux plus en faire. Mais on faisait les mêmes, on était dans les mêmes cours, on avait la même prof.
Ah hein. Oui, ah super.
Sauf qu'elle a commencé après moi. Moi, j'avais déjà arrêté parce que j'étais déjà enceinte quand elle a commencé. Mais on a suivi les mêmes cours à la même place. Et que je recommande à tout le monde. Génial. Mais elle publie ses vidéos. Toutes oui. les semaines, elle publie ses vidéos.
Oui.
Et comme elle le dit, des fois, je me trouve moche. Oui. Des fois, je me trouve pas belle, puis grosse, puis ceci, puis cela. Mais elle le montre pareil.
Mais je trouve ça important parce que ça montre l'authenticité, puis ça montre l'univers des nuances aussi. Parce qu'après ça, la fille qui va la suivre, qui est dans cette démarche-là, va se dire c'est une belle inspiration parce qu'elle ne s'empêche pas justement de faire tout ce qu'elle veut. Mais elle ne met pas la pression de devoir m'aimer à 100%. Parce que pour des femmes, ça va super bien marcher. J'ai des clientes pour qui là, ça marche super bien. J'ai d'autres clientes qui vont me dire, mais Sarah, j'ai honte là, parce que moi, je ne suis pas capable d'être comme elle et de m'accepter à 100%. Puis là, je me sens poche parce que je ne fit dans aucune case. Fait que là, je suis juste poche tout court. Mais non, 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 pas du tout. Fait que merci aux Nadia de ce monde. Oui. Il y en a plein d'autres aussi, là, mais qui ont cette... qui ont développé, je pense, cette sensibilité-là qui est super importante, en fait, pour... tu sais, on a tous un parcours différent, puis c'est correct, puis il y a des gens qui vont s'aimer à 100%, il y en a que ça va être à 75%, il y en a que ça va être à 25%, puis c'est correct aussi, tu sais. Faut trouver notre petite place à nous dans laquelle on est bien, tout simplement.
Ouais, et puis, moi, c'est quelque chose que je fais beaucoup sur mes réseaux, de montrer les bons côtés, mais aussi les mauvais côtés, le côté plus dur, en fait, parce que ça, moi, j'ai appris, j'étais autiste à 35 ans. J'avais un dossier de neurodivergence épais comme un dossier criminel, qui fait que j'ai eu beaucoup de préjugés par rapport à ce que j'avais. Je ne fitais pas dans mes diagnostics. J'ai été médicamentée, donc médicaments qui m'ont fait changer d'image corporelle, etc. Et le diagnostic d'autisme, j'en parle beaucoup. Maintenant, j'en parle beaucoup du fait que je suis autiste sur les réseaux parce que c'est quelque chose qui est dans ma réalité au quotidien, avec lequel j'ai des enjeux au quotidien. Et c'est très drôle parce que quand j'ai vu ton invitation pour le podcast, j'avais parlé à ma binôme, c'est une autre entrepreneur avec qui on se parle toutes les semaines, pour faire une espèce de check-up de ce qu'on fait toutes les semaines en tant qu'entrepreneur. Et je lui parlais justement du fait que depuis j'avais accouché, j'avais une diastase, j'avais un œdème, que mon ventre me complexait énormément, que j'arrivais pas à retrouver une image corporelle qui me convenait, en fait, parce que j'ai encore l'air d'être enceinte de 7 mois à peu près. Et c'était vraiment compliqué pour moi, et puis que là j'en avais marre d'avoir mal au dos à cause de ma poitrine, puis que je pensais de plus en plus à la chirurgie, etc. Surtout que ma fille, en fait, est quasiment plus allaitée, dû à des problèmes de santé. Bref, c'est autre chose, mais je me disais, bah, peut-être que je vais faire mon opération pour les seins plus rapidement que je ne le pensais. Puis, c'est potentiellement possible de faire une abdominoplastie en même temps. Donc, j'étais en train de réfléchir avec ça, à ça avec elle. Et elle me dit, mais tu parles jamais de ton corps sur Internet.
Ah, c'est bon, c'est de là que ça vient.
Oui, c'est de là que ça vient, en fait. Parce qu'elle me dit, mais tu parles de beaucoup d'oppression, tu parles du racisme que tu subis, tu parles de problèmes de la santé mentale, de l'autisme, tu parles le fait d'être une femme, tu parles le fait d'être pansexuelle, tu parles de tout ça, mais tu ne parles jamais de ton corps.
Mmh.
Et en fait, j'ai cheminé cette semaine et j'ai vu donc ton invitation pour le podcast et j'étais, bah, c'est vrai, je parle jamais de mon corps et pourtant, je me considère comme militante sur tous les plans. Mais je sais pas, je me sentais peut-être pas, même pas une question de être à l'aise, mais peut-être pas légitime à le faire en fait. Pas assez légitime à le faire. Et je me suis dit, ben, en fait oui, parce que dans mon entreprise, j'aide les gens qui sont différents. C'est les clients qui viennent à moi, c'est les gens qui sont différents, qui rentrent pas dans les cases. Et je me suis dit, ben, ok. Le podcast est une bonne plateforme pour justement me lancer. Je deviendrai potentiellement pas militante anti-grossophobie complètement, bah, dans le sens où je ne le ferai pas sur les réseaux de manière active. Mais oui, je vais en parler. Oui, je vais en parler. J'ai fait une publication la semaine dernière justement sur ce corps que je ne reconnais pas. Parce qu'en fait, c'est important d'en parler. Les gens disent souvent oui mais vous parlez trop des oppressions blablabla de vos minorités gnagnagna. Mais parce qu'en fait si on n'en parle pas on change pas
mais c'est ça
on change pas ce qui se passe on change pas l'histoire et c'est important de la changer parce que on est en 2023. On a une technologie absolument incroyable autour de nous. On est capable d'aller sur la Lune. On est capable limite de faire voler des voitures. Mais on n'est pas capable d'accepter que quelqu'un soit gros.
Ouais. Ouais.
Que quelqu'un soit quelqu'un soit musulman. Que quelqu'un. Mais dans quel. Je sais pas, moi, intéressez-vous à ça plutôt que d'aller sur la Lune, là.
Totalement d'accord.
Non,
totalement d'accord. Mais c'est vrai.
Parce que, je veux dire, réglons les problèmes qu'on a déjà sur Terre avant d'aller embêter les gens ailleurs. D'ailleurs, si j'étais un extraterrestre, je ne m'intéresserais pas aux humains. Là. Vraiment, non, je n'ai pas envie de vous connaître. Mais on a une diversité humaine qui fait en fait notre force.
Oui.
Et on essaye de la cacher. On essaye de la cacher. Même quand on essaye de la montrer, on la montre avec un certain stéréotype. Pour les personnes grosses, ça va être des mannequins qui ont la taille sablier.
Oui.
Pour les personnes noires, c'était des personnes pas trop noires. Pour des personnes arabes, c'était des personnes arabes mais sans hijab. C'est autiste mais Asperger, enfin l'ancien Asperger, parce qu'Asperger est un gros nazi. Mais c'est des personnes qui n'ont pas de déficience intellectuelle ou alors des gens qui ont assez de déficience, ou alors très déficients, ou alors pas déficient du tout. On a ces espèces d'extrêmes, mais on n'a pas une espèce d'entre-deux où il y a des gens qui justement sont considérés sans déficience intellectuelle, mais qui sont quand même autistes. Mais c'est pas les extrêmes. On part toujours dans les extrêmes. Il y a une espèce de entre-deux qui n'existe pas. Parce qu'en fait, tout est des spectres.
Mais c'est ça. Mais c'est très noir ou blanc, là. Sur les réseaux sociaux, souvent aussi, on est noir ou blanc, puis c'est comme quand on essaie de mettre du gris ou des couleurs, c'est sûr que c'est pas évident de... On n'a pas beaucoup de place non plus. On a un temps limité quand on a des vidéos. On a des caractères très limités sur Instagram. Quand on veut nuancer, c'est mon challenge des dernières semaines, honnêtement. C'est dur de faire passer le message puis qu'il soit bien compris parce que souvent, c'est comme, oh mon Dieu, ben là, elle a dit quelque chose, ben c'est plus noir, c'est blanc. Ça peut pas être gris, là. C'est comme, oh non, tu ne fais pas dans ma cage, ok, ben je te claire, je veux plus, je veux plus suivre. OK, mais non, c'est plus complexe que ça, tu sais. Mais c'est effectivement, l'humain, il aime aime pas tant ça, le petit gris, la zone entre les deux, là. C'est comme le cerveau humain, il est comme, c'est blanc ou c'est noir, là. C'est comme, faut que je te mette dans une cage, justement.
Non, et puis de donner la parole à des gens qui sont pas concernés par les oppressions aussi, ça, c'est un problème.
Oui.
Parce que, justement, on peut faire parler les personnes qui sont justement, qui sont dans les cases, mais qui en sortent un tout petit peu, mais qui ont quand même les privilèges qui vont avec le fait de rentrer presque dans les cases, le fait de donner parole aux gens de l'entourage. Parce que ça, par exemple, en autisme, en matière d'autisme, c'est souvent le cas. On donne la parole aux parents, aux frères, aux sœurs, aux professeurs, mais alors la personne autiste, apparemment, elle n'est pas capable de s'exprimer elle-même. Parce que qu'on soit verbaux ou pas verbaux, on est capable de communiquer sur ce qu'on vit. Les personnes grosses, bah, faut que tu sois grosse, mais pas trop grosse, mais pas trop positive, mais pas trop négative, mais pas trop... C'est toujours... T'es toujours trop ou pas assez de quelque chose. Ouais. Et c'est ça qui est beau avec les réseaux sociaux, c'est que c'est pas, ces personnes-là qu'on voit pas dans les médias traditionnels,
oui. Ils ont cette parole. Oui, tout à fait.
Même si l'algorithme est pas forcément sympa avec eux. mais ils ont cette possibilité d'avoir cette parole-là.
Oui, tout à fait.
Et c'est ces nuances qu'on essaye aussi d'effacer sur les réseaux sociaux, mais qui est importante de maintenir. Et c'est là où, par exemple, on voit que TikTok est un merveilleux médium parce que c'est le réseau qui avait le moins de limitations en matière de sujets, en matière de reach, en fait, parce que n'importe qui pouvait obtenir des millions de vues, ce qui n'est plus forcément le cas aujourd'hui. Mais c'est considéré comme le réseau qui a le plus de liberté d'expression aujourd'hui. Et en fait, ça a fait qu'il y a des gens qui ont trouvé des inspirations. Eux-mêmes ont considéré qu'eux-mêmes pouvaient être des inspirations pour. Puis je trouve ça bien parce que plus on va libérer la parole, plus en fait on va avoir une société qui va accepter la différence, puis qui va vivre avec cette différence. Parce que c'est même pas juste accepter, parce qu'on n'a pas besoin d'être accepté. Nous, les gens, ils veulent juste vivre tranquillement, en fait.
Oui, c'est ça, exactement.
C'est pas comme si les gens dans la norme devaient nous inclure, en fait. On ne doit pas être inclus, on est inclus.
Exact.
On est inclus. Mais exactement. On arrête de nous écraser pour qu'on soit pas, pour qu'on nous voit pas, en fait.
Très bien dit. Totalement le cas. Totalement ça. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce message qui rejoint beaucoup la thématique du podcast, en fait, là, qui est un peu ce but-là par rapport au mot du poids, finalement. C'est juste d'avoir le même respect et le même traitement que n'importe qui d'autre. C'est tout. C'est ça le message. C'est pas plus, c'est pas moins. C'est simple. Là. C'est pas énormément à demander. Souvent, ça va être vu comme, même au niveau médical, ça va être vu comme l'acceptation corporelle à tous les poids va être vu comme un affront à la santé, aux habitudes de vie, alors que c'est pas du tout ça. Il y a beaucoup de choses à déconstruire dans ce sens-là, mais c'est juste la base, traitement de base.
J'ai eu la chance du côté médical d'avoir toujours des gens très bienveillants avec moi, surtout au niveau des grossesses, parce que je sais qu'il y a beaucoup de grossophobie médicale auprès des personnes grosses qui veulent tomber enceinte.
Oui, tout à fait.
Et moi, j'ai la chance d'avoir eu... J'ai eu la même clinique pour les deux grossesses, justement, parce que la première fois, ça s'était bien passé. Mais de ne pas avoir ce problème-là, parce que mon IMC, le fameux IMC, était largement bien au-dessus de ce qu'on recommande pour une personne qui veut tomber enceinte. Mais on ne m'a jamais fait de remarques sur mon poids. On ne m'a jamais... Ça, c'est vraiment... Au contraire, en fait. On m'a accompagnée... monter mon poids, c'était ok. On verra, on se revoit dans 15 jours.
C'est assez exceptionnel, là. On les salue.
Ouais, mais je pense que j'avais pas pris assez de poids. C'est par rapport à ma grossesse, j'avais pas pris assez de poids. Mais j'ai jamais eu de problème de. Puis même au niveau médical. Ça, c'est grosse chance, là. Je sais que c'est loin d'être le cas pour beaucoup de gens, là.
C'est pas la norme, disons.
Non, c'est pas la norme.
Malheureusement.
Mais en même temps, je vais le moins souvent possible à l'hôpital ou voir le médecin, donc, sauf quand j'en ai vraiment besoin. Pour des gens qui ont par exemple des suivis pour d'autres choses, comme l'endométriose pour les femmes ou des choses comme ça, qui demandent un suivi plus régulier, tout de suite ça devient plus compliqué. Mais je ne pourrais pas me prononcer sur le médical, sur ce coup-là.
Mais c'est parfait. Mais merci, non, ça a apporté une autre dimension complètement au genre de discussion qu'on a normalement sur le podcast. Donc, j'apprécie vraiment parce que ça a mis une toute nouvelle couleur puis une nouvelle nuance aussi qu'on n'avait pas autant abordé. J'ai beaucoup aimé les sujets qu'on a jasé aujourd'hui finalement. Donc, je te remercie énormément, Elina, pour ton temps, ta générosité. On te remercie encore d'avoir pris du temps de tes vacances dans ta famille pour nous finalement. Donc, un énorme merci.
Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était vraiment un plaisir. Puis, vraiment, c'est un très beau podcast. Puis, c'est important.
Merci.
Parler.
Oui, vraiment. Merci pour ça, tout à fait. Et dis-moi, Elina, est-ce que si jamais on est quelqu'un qui est intéressé à voir ce que tu fais, à peut-être même travailler avec toi, est-ce qu'il y a un endroit où on peut voir tes services ou te suivre?
Oui, alors sur Facebook, c'est les éditions Proleps, donc Proleps. Les éditions Proleps sur Facebook. Sinon, sur Instagram, c'est Inspiratrice d'écriture.
Parfait. Je vais mettre tous les liens dans la description de l'épisode.
Merci.
Merci à toi encore une fois. Très belle découverte. Donc, moi-même, je vais commencer à te suivre. Donc, merci énormément, Elina. Pour les autres, on se revoit bientôt pour un prochain épisode.
Merci de ton écoute. Si jamais tu as des commentaires ou des suggestions sur le podcast, je t'invite à me suivre sur les réseaux sociaux Sarah Normandin, nutritionniste, Facebook et Instagram. Tu peux aussi consulter mon site internet sarahnormandinnutritionniste.com. Ça va me faire plaisir de jaser avec toi.